la musique.
Caravane à la maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du...
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le soleil.
Vive
les oreilles.
Vive.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres. Alors aujourd'hui, nous recevons Stéphane Payen. Eh bien, nous sommes très heureux de t'accueillir à nouveau dans l'émission, Stéphane, parce qu'on se demandait hors antenne l'année où tu étais venu. Alors, on hésite entre 2009 et 2010. En tout cas, ça fait un bon bout de temps. Tu viens de nous parler de nombre de tes projets, et notamment de workshop dont on vient d'entendre l'extrait de l'album. Le morceau s'intitulait 9 to 8. Bonjour, Laurent.
Bonjour.
Bonjour.
Salut Stéphane, peut-être que tu peux présenter les musiciens pour commencer workshop.
Le workshop, c'est avec Olivier Lenné à la trompette, Guillaume Revellan à la basse et Vincent Sauve à la batterie. Et pour ce disque, une personne assez importante dans mon parcours qui est l'ingénieur du son qui s'appelle Sylvain Thévenard, voilà, qui est la personne avec qui je travaille tout le temps et qui a des fois son petit mot à dire sur les choses et souvent des choses intéressantes et pertinentes.
Très bien, très bien. Et donc depuis quand existe le groupe ?
Alors le workshop, c'est le groupe, il porte ce nom-là.
Oui, ça veut dire parce que l'atelier, faut quand même effectivement.
Ouais, voilà, l'atelier en anglais. Oui. Parce que c'est né comme ça. C'était pas un projet musical en soi au départ. J'avais moi une envie de pratiquer des choses. Voilà, tout simplement. Et à l'époque, j'ai demandé à Vincent et Guillaume, avec qui je ne jouais pas, mais je les connaissais, s'ils avaient envie de qu'on se voit juste pour travailler. Et je leur avais même dit, bah voilà, moi j'ai envie de faire les choses, mais d'une certaine manière, et pas autrement. Donc je vous propose qu'on se voit une fois, on essaie, si ça vous plaît, on continue, si ça vous plaît pas, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi je ne changerai pas ma façon de faire.
Mais alors, quelle façon, quelle manière ?
C'était travailler certains aspects de la musique par rapport à la tradition orale, comment on allait gérer certaines notions de jeu collectif, quelles discussions on allait avoir entre nous à l'intérieur de la musique, et pour ça au fil du travail de procéder d'une certaine manière pour acquérir le matériel ou les morceaux plus simplement. Et donc les choses ont pris comme ça, puis on a travaillé. Au bout d'un moment, je me suis senti un petit peu tout seul avec mon saxophone. Et puis comme ça, devant un café, je leur ai dit, oh, mais vous connaissez pas un jeune trompettiste qui serait motivé, qui a le temps, parce qu'on y a vraiment passé quelques heures, mine de rien. Ils m'ont parlé d'Olivier, que je connaissais pas, donc je suis allé écouter un petit peu des trucs. Je me suis dit, ah ouais, bah tiens, donnez-moi le numéro d'Olivier, je vais l'appeler. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, on a travaillé pendant 2 ans. Et sans pas de concert, rien, on se voyait régulièrement, on travaillait. Et puis, au bout de 2 ans, un jour, juste on s'est dit, mais il faudrait peut-être le coup qu'on sorte de notre trou, hein, qu'on va être un peu autiste sinon, là, et de présenter ça à des gens. Et de fait, on a essayé de garder cette régularité, de jouer au moins une fois par mois, coûte que coûte.
Bon, vous y arrivez à peu près, non ?
Ouais, on s'y tient à peu près depuis. Et puis on continue ce travail régulier. Donc là, maintenant, ça doit faire quoi ? Ça fait 3, peut-être bientôt 4 ans qu'on travaille ensemble.
Et le disque donc, qu'on vient d'entendre est sorti très récemment ?
Ouais, il est sorti en mai.
Il est sorti en mai.
En fait, donc c'est tout frais, c'est enregistré l'année dernière. Et voilà, alors j'allais dire, c'est un témoin de ce qu'on a fait. Pas que, parce que ça reste un disque et j'avais pas envie de faire un simple témoin alors que c'était pas ma démarche avant. Mais
un témoin, ça veut dire que c'est une photographie de là où le travail en est.
Un instant T. Voilà, il y a un moment où je me suis dit, mais le témoin, c'est le concert en fait. Voilà, si les gens veulent un témoin de l'instant T, faut venir écouter. Il faut continuer de sortir de chez soi et d'aller écouter de la musique live et de garder cet aspect-là. Et qu'il n'y aura de toute façon aucun moyen que de retranscrire ça sur un enregistrement, même s'il est live, parce qu'on n'y est pas. Et il y a tout un aspect visuel aussi qu'on ne voit pas, une ambiance liée à un lieu, liée à ce qui s'est passé dans la journée, une actualité, plein de choses qui peuvent intervenir dans la façon dont les gens vont écouter la musique.
Et la jouer.
Et ouais. mais puis même pour le public, voilà.
C'est clair.
On n'arrive pas de la, voilà, aujourd'hui il fait beau, il fait chaud. on va écouter un concert ce soir. C'est pas comme si il faisait moins 20 et qu'il pleuvait. On n'arrive pas dans le même état d'esprit, je pense.
Et puis moi, pour beaucoup voir de concerts, je pense qu'une différence importante entre écouter un disque et écouter un concert, c'est que quand on écoute un concert, on n'est pas tout seul. Enfin, alors que quand on écoute un disque chez soi, on est tout seul. Grosso modo.
Oui, il y a quand même beaucoup ça. Et donc là, au moment où on enregistrait, je réfléchissais aussi un petit peu au fait que ce serait un disque et non pas uniquement la retranscription de ce qu'on fait d'habitude.
Mais alors ça change à quel endroit du coup dans les choix musicaux ?
Ça change, non, ça peut changer sur la durée des choses, par exemple. Moi j'avais envie de sur ce disque qu'il y ait beaucoup de matière, sauf qu'il nous arrive parfois sur scène de faire qu'un morceau va durer un quart d'heure. Voilà, un CD c'est 72 minutes maximum. On va pas mettre 4 morceaux, j'avais pas envie. Il y avait tout un travail que je voulais voir apparaître sur ce disque. Et en plus je voulais pas qu'il soit long. Vous noterez, c'est pas un disque qui est long, il fait 43, 44, 42.
Voilà. 42. Ouais.
Parce que moi le premier de nos jours, j'ai pas 72 minutes, malheureusement. J'aimerais bien, hein, mais les choses s'accélèrent. Et j'aime bien avoir un temps court comme ça, où ça m'empêche pas d'écouter
des
choses.
C'est le format, moi j'aime beaucoup le format du vinyle, en fait. C'est-à-dire
oui, c'est ça, c'est se rapprocher un petit peu de ça, du vinyle, ou même moi je trouvais ça assez plaisant que d'avoir à le retourner, parce que ça faisait une pause, pour l'audition. Et ça m'arrive même moi souvent, pour ce qui est des lives. Je sais que très souvent, à la fin d'un concert, j'ai ma dose et je ne reste pas forcément pour un rappel. Parce que c'est bon, j'ai quelque chose est clos et j'ai ma limite de tolérance ou ma capacité à écouter quelque chose.
Bon, on a un peu tous la même, c'est-à-dire qu'au dessus de trois quarts d'heure, je pense qu'il y a...
Il y a des choses comme ça. Et puis, à travers le disque, quelques petits moments où les gens qui l'écoutent... prête une oreille un peu plus attentive, se rendront compte que là, tiens, il n'y a pas qu'une trompette, il y en a deux. Des petites choses de plus liées à un travail d'écriture, on va dire, qui sont rendues possibles par le studio et pas quand on est tous les quatre sur scène.
C'est ça.
Voilà.
Très bien, très bien.
Et c'était une première étape, et je dirais même une première étape qui au final ne revendique aucune identité esthétique. Il n'y a eu aucune réflexion menée sur ce sujet-là, absolument pas. Le seul travail qu'on a fait, c'est de partir d'un matériau qui est-ce qu'il est. Donc j'ai à l'époque, maintenant ça commence à arriver un petit peu, mais pas écrit de nouvelle musique. C'était de la musique déjà existante. Ouais. Et c'était plus, j'ai choisi des morceaux qui étaient un prétexte pour travailler ensemble, justement. Et le but n'était pas de travailler le morceau en lui-même, mais de prendre un vocabulaire, une grammaire, et dire qu'est-ce qu'on va en faire tous les quatre ensemble et comment on va converser avec ces outils-là. En étant... ce qui me fascine, moi, beaucoup de plus en plus, c'est d'essayer de comprendre, sans trop théoriser d'ailleurs aussi. Je suis impressionné par comment les gens communiquent en musique, entre quand ils jouent. Et j'écoute de plus en plus de musique traditionnelle, là où les échanges sont très collectifs. Pour la plupart des musiques qui sont jouées depuis très longtemps, de voir des gens qui pratiquent un même morceau depuis des générations. Et en général, dans ces musiques-là, il y a une vie qui se passe, que ce soit dans le bata à Cuba, ou avant, en Afrique de l'Ouest, ou dans le sabar, ou à partir de choses très simples au départ, finalement. Il y a un vocabulaire ultra riche, pas forcément complexe, mais riche, varié, qui génère une interaction sans fin, enfin sans limite entre les musiciens. Et c'était ça qui m'intéressait. C'était pas le... Après, ce qu'il en résulte, justement, ça sera le ce qui en résulte, c'est le contenu de nos échanges. Voilà, nos échanges vont créer quelque chose, et c'est ça qui m'intéresse. Et de voir comment, au fil du temps, justement, la discussion va évoluer.
Et là, sur les 2 ans ou 3 ans que vous avez travaillé ensemble, justement, il y a une évolution, ou est-ce qu'à travers le disque, on peut la sentir aussi, ou comment...
Je pense qu'elle est... Non, elle n'est pas forcément... je pense pas qu'on puisse la sentir forcément à travers le disque, parce que le disque a figé quelque chose. Mais il est vrai, je sais que par exemple, pendant les séances d'enregistrement, à un moment, il y en a un qui disait « Ah oui, mais dans tel morceau, pourquoi on fait pas ça ?» Et puis il y en avait un autre qui disait, oui, mais on faisait ça il y a 6 mois, je me souviens même plus ce que c'était, c'était passé. C'était quelque chose qu'on avait pratiqué, travaillé, mais ça y est, c'était plus d'actualité. C'était, même si c'était super, pour nous, il n'y avait pas de nécessité de dire, bah, il faut absolument que ça apparaisse sur le disque. On a le droit de faire des choses et de les garder pour nous aussi. Et puis, est-ce que c'était si bien que ça, d'ailleurs ? La question se pose. Mais voilà, donc le... Non, non, il n'y a pas de l'évolution, à part voilà, le live, moi c'est ça que j'aime suivre, allez, c'est là que les choses se passent, c'est là que tout se déclenche, ou même parfois le live, ou même nous, des fois, entre deux concerts, il nous arrive de pouvoir répéter un certain nombre de fois, et les choses évoluent là, énormément, et ça m'arrive même de sortir d'une répétition, de me dire, mince, on n'a pas enregistré aujourd'hui, c'est dommage qu'on n'ait pas de traces de ça, parce que là, il s'est vraiment passé de la musique, et quand je dis musique, dans ce que nous on recherche, qui est dans cette interaction qu'on a tous les quatre, de me dire waouh, c'est fou.
Oui, mais alors, du coup, les versions qui sont gravées sur le disque, c'est à t'entendre, c'est pas forcément les meilleures, ou vous auriez pu les enregistrer avant,
Le meilleur, je sais pas.
Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui détermine que ce sont ces versions-là qui vont être gravées pour l'éternité, on va dire.
Parce que le jour où on les a enregistrées, c'est ce qu'on a fait de plus pertinent. À mes oreilles.
Ouais, c'est une question de, voilà,
on a même, moi je sais, quand on a réécouté, on a énormément travaillé en studio. On est sorti de là cuit. On a joué, ce que je faisais peu avant, mais là il y a des versions, on en a fait plein, on a essayé plein de choses. Et donc il y a eu un travail de réécoute, de tri dans tout ça, et ça a été aussi pour nous, en tant que groupe, un travail intéressant. Tout le monde s'est collé au fait de réécouter les versions. Et de me donner ses choix. Et éventuellement, après, il a fallu trancher, mais il a fallu discuter, tout ça, bon enfant. Voilà. Et quand je disais après que c'est pas forcément uniquement la photo d'un moment, voilà, tout ce qui a été, il y a un petit peu de montage, il y a un petit peu des choses comme ça. Souvent, c'est un travail qu'on fait en studio. Moi, là, je l'ai fait tout seul, en autonomie. Et alors, ça a complètement changé ma vision de la chose. Parce que là, j'avais entre les mains l'objet de A à Z. Ouais. Et d'un seul coup, tout s'est ouvert. D'un seul coup, j'ai pensé à la totalité du disque. Et à un moment, je me suis dit, ah bah oui, mais là, le solo, là, il est bien. Ah oui, mais ça me rappelle un petit peu le tel morceau. Ouais. Et pour nous, le discours est de qualité. Mais pour celui qui va l'écouter, je me suis dit, mince, un peu dommage de laisser ce truc. C'est un peu deux fois la même chose. Ah oui. Bah non, on va trouver autre chose. Et voilà. Donc, finalement, on avait assez de matière pour avoir du choix, ce qui était un luxe.
Après, j'ai une autre question. Une fois que le morceau est fixé, gravé, est-ce qu'on n'a pas tendance à vouloir garder cette version ? Est-ce que ça ne coupe pas justement l'évolution ?
Si, c'est un risque. C'est un risque, mais c'est quelque chose qu'on travaille, justement. Ouais. Le fait de, éventuellement, s'interdire. De se dire ça, parce qu'il y a le risque vraiment de, ne serait-ce qu'avant un concert, de se dire ah, mince, tiens, il y a tel morceau là, ça fait longtemps qu'on l'a pas joué, je m'en souviens pas, tiens, je vais remettre le disque, je vais l'écouter pour et de se dire ah oui, c'était ça, d'un point de vue formel par exemple. Moi j'essaye de faire que au niveau formel, chaque interprétation d'un même morceau, la forme change.
Alors qu'est-ce que ça veut dire, un morceau, dans ces cas-là, si la forme change?
Bah, c'est qu'il y a
qu'est-ce qui permet de le reconnaître en tant que tel ?
Bon, ça va être un aspect mélodique, ça va être un aspect rythmique, ça va être... On reste dans le cas de la musique de workshop quand même, dans un format au départ finalement assez classique, une basse qui joue un peu son rôle de basse, un batteur qui fait un peu son job de batteur, même s'il a des contraintes qui ne sont pas forcément celles qu'il a d'habitude... une trompette, un saxophone qui à un moment joue ce qu'on pourrait appeler une mélodie ou pas, elle s'appelle pas toujours comme ça, on les nomme pas, nous en tout cas, toujours comme ça. Voilà, il y a des choses qui sont là, qui sont identifiables. Par contre, mais souvent les morceaux sont organisés, c'est un petit peu comme des, c'est pour un peu des Lego en fait. Et avec une boîte de Lego, on peut faire plein d'objets différents finalement, mais ils ont tous à l'origine c'est les mêmes pièces qui l'ont construit.
Et du coup, le résultat formel, c'est le résultat de cette interaction ou de ces communications, comme tu dis.
Exactement. Finalement, les uns et les autres, on a plus ou moins, après ça dépend, ça dépend des objectifs qu'on s'est fixés, on a une possibilité plus ou moins grande que d'intervenir sur la forme à laquelle on va aboutir à la fin du morceau.
Et ça, c'est défini. C'est
pareil. C'est des périodes. Ça dépend du travail. Par exemple, sur le disque, en l'occurrence, il y a un morceau qui s'appelle Lyon. Voilà. Mais il est coupé en deux. Il y a partie 1, partie 2. Mmh. Et le disque, c'est la seule version existante de ce morceau coupé en deux. Il n'a jamais été exécuté live coupé en deux. Mmh. Voilà. Bah, il s'est trouvé qu'avec ce qu'on a fait en studio, il en est ressorti. À un moment, il s'est avéré qu'en réécoutant tout, on avait deux morceaux distincts et que ça se tenait. Et je me suis dit, tiens, génial, on ne l'a jamais faite, cette forme-là. Et elle est intéressante. Bah, tiens, on va mettre celle-là. Il n'y a pas de... Alors qu'il y aurait pu y avoir de la frustration de se dire, mais zut, moi, c'est le truc entier que je veux. Mais non. Non, c'est... On a une matière, on obtient un résultat, et à la réécoute, c'est la différence justement avec le live. Avec le live, il n'y a pas de réécoute. Voilà, on a mis quelque chose, on a acheté quelque chose comme ça devant nous. C'est fait. On ne peut plus intervenir dessus. Là, on avait la possibilité d'intervenir. Ça devient intéressant parce que justement c'est une forme qui n'aurait pas, probablement pas, enfin en tout cas elle n'était pas arrivée jusque là, elle ne s'était jamais produite de façon intuitive sur scène.
D'accord.
Donc c'était là que c'était intéressant aussi, tout le travail qui a été fait après, entre l'enregistrement et la fabrication du CD.
Il y a aussi du coup un façonnage de la forme à travers la réalisation du...
Ouais.
Du CD. Alors peut-être que cette évolution là dont on parlait, on va la saisir justement en écoutant un prochain disque du workshop.
Oui, alors il y a justement...
Parce que là on verra qu'il y a peut-être un
l'idée de workshop aussi, justement, comme elle n'est pas question d'esthétique ou quoi que ce soit, mais plutôt de vocabulaire, finalement, comme apprendre une langue, avoir une langue commune, fait qu'on n'a pas travaillé que de la musique à moi. On a aussi travaillé autour de la musique d'un batteur afro-américain qui s'appelle Doug Hammond, avec qui moi je travaille depuis 6 ans maintenant, et qui fait une musique assez singulière, monsieur qui a 73 ans maintenant, voilà, donc, qui est vraiment quelqu'un qui a parcouru entre autres l'histoire du jazz en jouant avec Mingus, Rollins, enfin voilà, j'en passe à des meilleurs. Qui a été aussi beaucoup sur toute la scène Motown, des trucs un peu plus funk, tout ça, et qui, vers la fin des années 80, s'est installé en Europe, en Autriche plus précisément, a travaillé avec un percussionniste allemand qui s'appelle Peter Geiger, qui n'est pas très connu ici en France, qui avait un groupe qui s'appelait Family of Percussion, qui existe toujours d'ailleurs, je crois, dans lequel à l'époque il y avait ce Peter Geiger. Ils étaient quatre, il y a un nom qui ne me revient pas de suite. Et il y avait Doug, et il y avait Trilogue Gurtu, qui était à l'époque pas très connu. Et voilà, et c'était que des percussionnistes. Il y a notamment un disque qui est super avec Shep, Archie Shep en invité.
Ouais, ça, c'est dans les années quoi,
70, là, on est 80. Et voilà, plein de choses. Et puis Doug a eu à une époque un groupe avec Steve Coleman. Et de fait, Doug est une influence. Une des plus importantes, on va dire, de Steve. Et enfin voilà. Bref, du coup, on a fait tout un travail à partir de la matière de Doug, en se l'appropriant un petit peu. Il y avait aussi de ma part une volonté de... parce que quand on joue la musique avec Doug, il est là. Donc c'est sa musique, c'est lui qui la dirige. Et c'est comme ça. Moi, il y avait une envie aussi un petit peu de l'apprendre et puis d'essayer de me l'approprier un petit peu plus. Sachant que l'idée aussi était de prendre... dans sa musique à lui, quelque chose que nous, on pouvait jouer, qui allait nous parler. Il y a des morceaux qui sont absolument pas adaptés au workshop, parce que bon, c'est pas le même langage, c'est pas le même... Enfin, ça vient d'un peu trop loin, on va dire. C'est comme si on se mettait, je sais pas, à jouer de la musique balinaise du jour au lendemain. Comme ça, ça n'aurait pas de sens. Ça ferait peut-être un truc chouette, mais enfin, voilà. je vois pas trop. Donc là, il y a un second disque qui sort à la fin de l'année. Qui sera entièrement dédié à la musique de Doug, en l'occurrence. Voilà, avec des trucs qu'on joue assez proches du texte. Et puis parfois des choses où il y a des petits trucs en plus, des petites choses maison qu'on a fait. Donc, là, c'est un morceau qui s'appelle Perspicuity, voilà, qui est un petit peu un des tubes de Doug Hammond. Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres, émission des musiques singulières et autres formes de création curieuses, avec notre invité aujourd'hui Stéphane Payen.
Et un inédit donc du workshop, la musique de Doug Hammond, interprétée donc par le nouveau quartet de Stéphane Payen. On peut peut-être continuer la discussion pour suivre le questionnement autour de cette histoire d'esthétique. Tu nous parlais de vocabulaire et de grammaire. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi c'est pas une question esthétique, par exemple? Enfin, je explique.
C'est toujours cette. Si je vais prendre un exemple. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Si je prends n'importe quel ensemble de sons, quel ensemble de notes, d'un point de vue théorique, on va retrouver les mêmes, éventuellement d'ailleurs, même certainement, un même enchaînement de sons chez Mozart, chez Boulez, chez Charlie Parker, chez Coltrane, chez Pink Floyd, chez machin. Voilà. Donc déjà, y a, quoi qu'il en soit, quand on fait de la musique, il y a un ensemble de choses qui sont communes, c'est commun à toutes les musiques. Après, il y a le fait de dire qu'est-ce que, à part tout ce qui se rapproche plus de la technique, on va dire, il y a quand même un aspect technique dans la musique. Dès qu'on écrit, certes, il y a un aspect intuitif. Il y a des choses qu'on contrôle pas toujours, mais il y a aussi au moment où, par exemple, on écrit ou conçoit, quand il s'agit de musique de tradition orale, on conçoit les choses, il peut y avoir un aspect théorique ou pas. Et moi, je reste convaincu que cet aspect théorique-là n'est pas forcément responsable du résultat esthétique de la musique. Et que c'est pour beaucoup l'interprète, très souvent, à travers le timbre qu'il propose, le son qu'il propose, va emmener la musique à tel ou tel endroit. Et que, par exemple, la musique que nous jouons avec le workshop donne un résultat. Je pourrais jouer cette même musique avec d'autres gens et aller dans des directions complètement autres. Ça ne serait pas un problème pour moi. Mais sauf que, en fonction des gens avec qui je jouerai la musique, afin qu'on se mette sur des terrains où on ait des choses à se dire, les choses qui seraient mises en jeu pour développer une improvisation collective ou des choses comme ça, on ne partirait pas forcément de la même chose. On n'irait pas forcément dans la même direction. Et donc, peu m'importe le fait de me dire, prenons le cas du workshop, là, il y a une basse, il y a une batterie, ça groove, il y a quelque chose. Mais c'est pas une nécessité en soi. C'est le résultat. Avec ces quatre-là, on a une culture, on a quand même un background commun. On vient tous de quelque part. On a écouté un peu des choses en commun. Et c'est ce qu'on a de commun qui nous sert de base un petit peu pour construire quelque chose ensemble. Avec une envie ou pas des musiciens d'essayer parfois, quoi qu'il en soit, de se mettre en danger et d'intégrer des nouvelles choses. Après, tout va dépendre aussi du regard qu'on porte aux choses et de savoir, en fonction des acquis qu'on a déjà, de sa propre culture, finalement, quel regard on va avoir sur telle ou telle musique, finalement. Moi, je me souviens d'un truc qui était pourtant évident, mais auquel je n'avais pas pensé que j'ai vécu, qui était de partir. J'en parlais avec guitariste avec qui on avait joué dans Tant Agrandi, Pierre Vandermal, le regretté, Pierre qui nous a quittés il y a quelques années maintenant. Et Pierre était allé faire une masterclass en Algérie. Il est guitariste, et donc présenter la guitare, etc., a joué pas mal de choses, et à un moment abordé avec les élèves, leur a parlé de Bach. Et Pierre Vandermal était fasciné par la musique de Bach, mais vraiment fasciné, et la connaissait très très bien. Et à la guitare, leur joue... un extrait, quelque chose de Bach, vraiment, et qui lui parlait, pour lui, il jouait l'exemple ultime, entre guillemets. Et il m'a dit, d'un seul coup, j'ai senti qu'en face, ça ne parlait quasi à personne. Et au bout d'un moment, il s'est dit, mais oui, mais ces gens-là sont dans une toute autre tradition, ils sont dans la musique modale. Et donc, telle cadence que moi je vais considérer comme merveilleuse et tout ça, je la considère merveilleuse ou pas. Quoi que je puisse en dire, il y a une part de mon inconscient qui est là mis en jeu par des heures de musique écoutée de manière contrôlée ou pas. À travers mon quotidien qui est je sors, j'écoute de la musique, des fois sans qu'on m'en ait demandé mon avis, parce que c'est l'ascenseur, c'est le supermarché, c'est la radio, c'est la télé, le film, le truc, et toutes ces choses-là. Et donc déjà, on en a parlé pendant des heures, et on parlait un petit peu des repères qui nous servaient à écouter la musique. Et finalement, à un moment, de se dire, mais qu'est-ce qu'on écoute en fait ? Qu'est-ce qu'on écoute naturellement, sans se poser de questions, quels paramètres de la musique vers quels paramètres on se tourne, qu'est-ce qui fait qu'à tel endroit on écoute ça, pourquoi tel auditeur de tel disque va dire ah j'adore tel musicien parce que quand il joue ça fait ça, et un autre va dire oh, c'est marrant, moi j'ai pas du tout entendu ça, par exemple, et ça arrive.
Mais ça arrive tout le temps, parce qu'il y a plein de qualités d'écoute.
Plus ou moins. Moi, j'ai vécu ça, par exemple, pour mon expérience personnelle, à l'époque où j'étais parti au Sénégal, où j'ai beaucoup étudié, enfin beaucoup, on peut toujours faire plus, mais j'ai étudié, je me suis passionné pour le sabar. Et c'est une musique à la fois ultra simple et à la fois ultra complexe, et où il fallait écouter la musique d'une certaine manière pour comprendre en fait ce qui était en jeu. Et je l'ai senti ce déclic. Il y a un moment où en fait, au moment où j'ai réussi à entendre, c'est devenu une évidence que tout ce que j'avais fait avant, en fait, j'avais pas écouté de la bonne manière. Parce que en fait, je cherchais, on va dire, quelque chose de rythmique. Et en fait, la clé pour que je comprenne ce qui se passe rythmiquement, c'était dans le timbre, c'était dans le son des instruments, et que l'aspect rythmique, je pouvais pas l'attraper si je me penchais pas sur les timbres. Et du coup, maintenant, partant de ce constat-là, je me suis dit, et si j'écoutais le rythme que comme des timbres, par exemple. Voilà. Et est-ce que je peux faire du rythme juste avec des timbres, enfin, selon des paramètres comme ça, ou le fait de parler de timbres, ça me fait penser au compositeur Morton Feldman, par exemple, qui parlait de créer des mélodies de timbres. Voilà. Donc, c'est un autre rapport. La personne qui va écouter la musique de Feldman, enfin pas toute, mais une partie, et qui va chercher une mélodie dans le sens, on va dire, plus courant où on l'entend, n'entendra pas de mélodie si il ne va pas vers le timbre.
Par c'est exemple. Schoenberg aussi.
C'est un petit peu toute cette façon de ces points de le point de repère qu'on va choisir, ce sur quoi on va porter notre attention. Et du coup, d'aller. Ça a peut-être fait du bruit là, le micro. D'aller trouver à chaque fois la porte d'entrée dans certaines musiques, voire d'essayer de trouver ça, surtout la sienne, mais parfois aussi de se laisser guider par d'autres gens, de dire mais c'est par où on rentre là. Un peu comme quand on monte son chemin parce qu'on est un petit peu perdu, des fois une simple petite indication, du coup ça ouvre tout un monde.
Tu disais tout à l'heure une musique à la fois, en parlant du sabar, mais à la fois très simple et très complexe. Moi je trouve que ta musique, c'est aussi ça, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a une exigence qui fait que, sur certains plans, ça peut être très sophistiqué, que ce soit mélodiquement, rythmiquement, harmoniquement, etc. Et en même temps, quelque part, il y a le caractère aussi d'une évidence, parce qu'effectivement, on est dans une conversation, donc il faut que ça ait un sens, il faut que ça communique, il faut que ça circule.
Bien sûr.
Et du coup, ça crée des choses, finalement, peut-être simples, une fois en tout cas qu'on a trouvé la...
Oui, c'est un peu le... Il y a un peu une forme de quête un petit peu aussi de ça, de rendre je sais pas si c'est rendre les choses simples en tout cas, mais c'est de les rendre cohérentes pour l'auditeur, c'est à dire que quel que soit le son qui est projeté, il a une certaine forme de cohérence pour les gens, parce qu'ils ont une sorte de compréhension de ce qui est en train de se passer, Et que ce soit avec le workshop ou avec Tot auparavant, on a reçu, d'ailleurs c'était assez chouette d'en arriver là, on a reçu parfois un écho du public qui était de dire « Ah bah tout ça au départ, ça a commencé, vous êtes mis à jouer, c'était curieux ». Et d'où l'importance du live aussi, mais de vous voir aussi en vrai communiquer, sourire, vous regarder à certains moments, etc. D'un seul coup, ça nous a donné des clés d'écoute et on est rentré dans l'histoire et d'un seul coup, tout prenait sens, tout faisait sens. Et tout devenait, pas à pas, on commençait à avoir une lecture de ce qui était en train de se passer. Et ouais, je crois qu'il n'y a pas enfin, tout ce qu'on appelle complexe, à mon sens, hein, c'est tout ce qu'on ne comprend pas, en fait. Moi, je sais qu'au bout d'un moment, je fais un peu d'enseignement, et souvent, ce que je dis à mes élèves, c'est qu'il n'y a rien de compliqué, il n'y a que de l'inhabituel.
Mais compliqué et complexe, ce n'est pas la même chose.
Oui, bien sûr. Hein, mais
que complexe, il y a plein de niveaux de possibilités de saisir les choses, etc. Et compliqué, effectivement, c'est que c'est très tordu, et que du coup, il n'y a pas cette cohérence ou cette évidence dont tu parles.
Oui, mais pour moi, c'est lié. Ça reste lié, tout ça. C'est dans le...
Moi, j'ai l'impression que ça peut être à la fois très... Justement, très complexe et très simple, alors que ça peut pas être très complexe et très compliqué. Mais bon, c'est peut-être... je veux dire par là que...
ça peut être inhabituel.
Une fois que... Inhabituel, bien sûr. Mais une fois que la proposition a sa singularité, sa puissance interne, et ben il y a plein de façons de l'écouter, d'y entrer, de la saisir, de l'apprécier. Ça, pour moi, c'est une forme de complexité liée au fait que ça se tient justement et que ça a eu aussi une forme
c'est peut-être aussi de savoir comment on emmène les gens, comment on les... Sans aller, le but c'est pas d'aller prendre les gens par la main, du tout. Hein. Mais parce que de toute façon, c'est un chemin qu'on est là, encore une fois, dans le cas de workshop, nous on a fait tout un travail qui était de dire à un moment, on doit être entre nous explicite dans ce qu'on est en train de faire. Et à un moment, quelqu'un joue quelque chose et il n'est pas compris. Et est arrivé le moment de dire, celui qui a fait, qui a déclenché quelque chose, dit bah alors. Ouais. Et les trois autres disent, on n'a rien compris. Justement, on n'a pas compris. Et ben, nous, l'erreur, on la reportait sur l'émetteur, pas sur le récepteur. Nous, on dit toujours, ça veut dire que l'idée n'était pas claire. Et donc, le but était de travailler à clarifier. Parce que. C'est justement l'émetteur doit expliquer ce qui est en jeu. C'est son seul objectif pour que pour les autres, il puisse y avoir une réactivité. Donc, c'est à lui, à l'intérieur d'un ensemble de paramètres, de savoir s'exprimer. Ce qui est, c'est nous, ça notre quête. Mais comme ça peut l'être, je sais pas, ça peut être le même problème pour aller à un entretien d'embauche, par exemple, que d'être face à des gens et à un moment, tous ils arrivent, en l'occurrence, tous les candidats arrivent avec la même chose à dire.
La grosse différence, c'est que tu vas pas, avec ton interlocuteur qui va t'embaucher, tu vas pas répéter 2 ans avant de faire l'entretien.
Sauf que les gens préparent leur entretien.
Oui, mais là, vous le préparez ensemble. C'est-à-dire, je pense qu'il y a aussi une connivence qui se construit. Il peut y avoir un clin d'œil.
Présente quand je donne cet exemple-là.
Mais c'est important parce que pour moi, ce travail-là, il fait aussi justement qualité, la complexité, la force de la
proposition. Oui,
mais c'est
parce que moi, je ne crois pas en l'histoire de l'entretien d'embauche, tout ça. Voilà. Moi, je n'ai jamais fait d'entretien d'embauche en musique, justement. Mais c'est valable pour tout. Je veux dire, c'est qu'à un moment, les gens s'assemblent et il n'y a rien à faire. Les gens, pour que ça fonctionne à plusieurs, il faut passer du temps ensemble. Justement, pour apprendre un vocabulaire, une grammaire. Et la vie, c'est complexe. Et le but, c'est de simplifier les choses au maximum. Justement. Parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, c'est complexe. Ça peut pas. Je vois pas de choses comme ça. Enfin bref.
Écoutons un morceau.
Parce que souvent on écoute de la musique, on se dit. Sans faire de trucs prétentieux, dit, ouais, les gens peuvent se dire ah oui, Payen, il est dans ça, bah oui, le workshop, ah oui, j'écoute, j'entends telle influence. Et voilà un exemple de ce que j'écoute à la maison. Ça, c'est un dernier truc qui m'a. Ça fait quelques années que j'ai découvert ça, mais je suis encore fasciné par ça. Donc, c'est de la musique.
Écoutons
de...
et puis on en parle après.
Ouais.
On en parle après.
Un mot peut-être, Stéphane, qu'est-ce que tu
alors, as écouté? C'est de comment? C'est un extrait d'une série de 5 poèmes écrits par un Italien qui s'appelle Sandro Penna, ou Pena, enfin je sais pas trop
italien.
Comment on dit. Ouais, italien. Et c'est mis en musique par Gérard Pesson.
D'accord.
Et voilà, ça donc c'est assez court. Hein, ouais. Et ça va, le poème le plus court fait 13 secondes. D'ailleurs, il y en a 5. Il y en a un, celui de 13 secondes, il y en a 2 versions, 2 orchestrations différentes. Et voilà, moi, c'est par exemple, c'est ma préoccupation, ce que je viens d'entendre là, dans la musique, quand je parlais de timbre, par exemple. Mm-hmm. Et mais c'est mon écoute. D'ailleurs, ça se trouve, Pesson n'a pas du tout cherché à faire ça. Ouais. Mais...
Il doit y avoir quand même quelque chose de ça.
Il y a quelque chose de rythmique dans la vibration, dans comment les timbres sont gérés, comment l'harmonie est gérée. Voilà, moi ça, je suis fasciné par ça. Et je peux écouter ça en boucle. Et voilà, le résultat esthétique est quelque chose, mais à mon sens, il est le résultat aussi de préoccupation, d'envie de créer un certain type de son. On utilise des outils et ça donne ça. Et en l'occurrence, à l'origine, alors il me semble, ce serait à vérifier, mais il existe une version de ces mêmes 5 poèmes pour piano et voix uniquement. Mmh. Et me semble-t-il, la version pour piano est la première des versions. Celle-ci, celle qu'on vient d'entendre, est venue après. Et encore une fois, avec le piano, il peut faire tout ce qu'il veut, mais je pense qu'il n'est pas du tout arrivé finalement au même résultat. Donc, encore une fois, des outils, voilà, des outils, ça peut être une certaine théorie, ça peut être un instrument, ça peut être plein de choses.
Là, c'est l'orchestre, par exemple.
Voilà.
Mais, et donc, en revanche, les préoccupations, c'est des préoccupations que tu partages à travers justement...
Complètement. L'idée de... Moi, j'entends, mais c'est mon oreille, avec justement mes repères. Là, je suis fasciné par ce qui se passe rythmiquement dans les mélanges de timbres et les phénomènes vibratoires engendrés par les rencontres des timbres des instruments. Je suis aussi plus généralement, par exemple, fasciné par le... Là, c'est très musicien peut-être comme préoccupation, mais d'entendre à l'intérieur juste un petit extrait musical aussi court que celui-là, quelqu'un qui a une grande connaissance de l'histoire de la musique, un concentré comme ça, et qui me fait toujours me dire chaque matin quand je me lève et que je travaille la musique, que c'est génial, j'ai encore plein de choses à apprendre. Et que je peux toujours me nourrir et qu'il y a plein de...
Fini,
on n'a jamais fini. Et voilà, ce travail-là, Pesson ne fait pas que ça. Mm-hmm. Il fait plein d'autres choses. Et enfin voilà, ça, c'est les 5 poèmes de Sandro Penna, c'est fabuleux. Voilà.
D'accord. Est-ce que on écoute peut-être d'autres...
Sans vouloir parler de théorie, mais... Il y a quelques temps, c'est pas si vieux que ça, mais j'avais participé à un projet de Hasse Poulsen, guitariste danois, un projet qui s'appelle Progressive Patriots, dans lequel il y avait Tom Rainey à la batterie, Henrik Simonsen à la contrebasse, donc Hasse à la guitare, et Guillaume Orti au saxophone, avec qui je travaille depuis... régulièrement depuis 20 ans.
Ouais. Et donc collectif ASC aussi.
À l'époque.
À l'époque.
On n'est pas à l'abri de revoir ASC sous peu d'ailleurs. je n'en dirai pas plus. C'était de la musique plutôt. Tout le répertoire était composé par ASC. Mm-hmm. Il a demandé à Guillaume et moi d'amener un morceau. Voilà, où justement on était dans un cadre qui était par exemple, si on prend ce qu'on vient d'écouter là, de workshop, on change un petit peu de monde, on n'est plus avec les mêmes personnalités. Et ça a été un jeu pour moi, par exemple, dans l'idée. C'est que, et je ne l'aurais pas dit d'ailleurs, en l'occurrence, comment. Enfin, Guillaume a tout de suite compris, quand j'ai amené les partitions, il est allé voir parce qu'il me connaît bien. Mais au départ, c'est complètement basé et inspiré d'un travail qu'avait fait Boulez à partir d'une pièce de Messiaen. Et c'est pas pour autant qu'on fait du Boulez ou du Messiaen, avec l'idée qu'on peut s'en faire, encore une fois, que de la musique qu'on fait ces gens. Voilà. Et c'est un morceau qui s'appelle, comment ça s'appelait ? Take Your Own Time. Voilà. We'll be right back.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, l'émission des musiques inhabituelles.
Donc là, c'était du Boulez ?
Non, non, certainement pas. Et encore, enfin, peu importe, non, fou, oui, moi j'adore Boulez, des fois je déteste. Enfin, non, il n'y a rien que je déteste, de toute façon, j'aime plus ou moins. Enfin, voilà, il n'y a pas de...
Non mais donc c'était des contraintes issues de...
Voilà, il y a des contraintes mais qui sont à un moment que personnelles et que moi je mets en jeu et que j'ai mis en jeu de façon... après, certes les musiciens m'ont demandé en fait, mais voilà que je mets en jeu, mais pour voir avec eux, avec ces gens-là, où ça va nous mener. Parce que c'est des gens qui sont capables de s'approprier une matière et avec cette matière-là de proposer un discours. Ça m'intéresse aussi. Voilà.
Bah, et d'ailleurs, peut-être moi, je voudrais maintenant qu'on resitue aussi peut-être tout ce qu'on vient d'entendre dans un parcours musical, puisque ça fait dizaines d'années que tu fais la musique et justement...
Bon, ça fait un peu plus de 20 ans.
Un peu plus de 20 ans. Et
ça fait 20 ans, on va dire.
Allez, ouais. Mettons 20 ans, on n'est pas obligé de tenir le compte. On t'avait invité pour Tote, qui est un groupe quand même marquant, que j'ai eu le plaisir de réentendre là récemment.
Il n'y a pas longtemps.
Quelques jours.
Le retour.
le grand retour, avec grand plaisir. Et on retrouve dans Tote, je crois, cette capacité à la fois à des individualités fortes et en même temps de partager un matériau que toi tu proposes essentiellement. Mais...
Oui, bah c'était le l'idée, elle est toujours dans ça. Elle est d'arriver à amener une matière qui génère un discours collectif. Le fantasme, même, je dirais, ça serait d'arriver à faire que si ça joue pas collectif, la musique s'arrête presque, finalement. J'avais en travaillant sur des idées avec des outils informatiques, d'informatique musicale, justement, on avait essayé de, c'était avec Olivier Sens, qui a développé un logiciel qui s'appelle Usine, qui est assez passionnant pour le traitement en direct. Des fois, on donne un comportement à l'ordinateur, en fonction, dans sa réaction à un événement sonore, et on se rendait compte, effectivement, si celui qui est censé déclencher, faire réagir l'ordinateur, qui lui réagit à des paramètres qu'on lui a enseignés, si l'instrumentiste ne joue pas le jeu de jouer de ces paramètres-là, c'est silence radio total pour l'ordinateur. Et à un moment, je fantasmais sur cette idée de me dire, mais si je pouvais écrire de la musique qui fait que si nous, les musiciens qui l'interprétons, ne jouons pas un certain type de jeu, est-ce que la partie peut avoir lieu finalement? Je fais souvent des parallèles, parfois douteux certes, avec un jeu de société par exemple. Un jeu de société, il y a des règles et puis on les garde, ou alors quand on les connaît vraiment très bien, on rajoute des choses, tout ça, ce qu'on fait quand on est gamin. Et en général, quand même, il peut arriver un moment où s'il y en a un qui triche un peu trop, parce que où il peut se passer un événement qui fait que la partie s'arrête. Et le but, c'est que la partie ne s'arrête pas. Et donc, d'arriver à amener une musique qui permette à chacun de s'exprimer sans pour autant que la partie s'arrête, mais qu'on soit tous interdépendants les uns les autres, en laissant un tant soit peu chacun s'exprimer.
Et comment on fait alors? Parce que Taute, ça dure des années, la partie, quoi.
Pour
pas que ça s'épuise.
On dirait qu'on parle d'un vieux couple, c'est quel est le secret avec toutes ces années pour pas que ça s'épuise. On n'est pas loin de ça. Oui, il y a des parallèles. Par le renouvellement des idées, amener un peu de folie. Ça a été de renouveler, d'arriver à toujours trouver une suite, en fait, de rebondir, finalement. Et à partir du moment où quelque chose a été intégré dans le discours, de toujours lui proposer un prolongement, un nouveau prolongement, ou d'amener de nouvelles ramifications. Soit c'est prolonger quelque chose qui a déjà été un peu développé collectivement, soit éventuellement une nouvelle branche qui reste entièrement à développer. Et ça, en se nourrissant aussi, quand bien même c'était ma matière, l'idée était de se nourrir aussi Gilles Coronado, Christophe Lavergne et Hubert Dupont. Par exemple,
Batteur et bassiste.
C'est de se nourrir du jeu de chacun aussi, et de ce qu'il a dans sa valise au moment où il rentre dans la pièce. Et Gilles, il a une façon de voir la musique qui est sienne, qui est très large d'ailleurs. Il regorge d'idées d'ailleurs à la seconde. Mais voilà, il y a Gilles. Il y a tellement de choses à prendre dans son jeu qu'on peut exploiter et qui nous servent à nous, qui sont c'est un catalyseur. C'est super porteur. ça amène la musique vraiment quelque part. Ça a été un petit peu ça. Avec d'ailleurs, des fois, on a fait. Il y a des morceaux que j'ai ramenés qu'on n'a pas joué longtemps. C'est arrivé aussi. Finalement, c'était pas des mauvais morceaux, parce qu'on se posait pas la question de savoir si c'était bon ou mauvais. Mais en tout cas, nous, on n'arrivait pas à en faire quoi que ce soit. Tous les quatre là. Voilà.
C'est ça.
C'est pour ça d'ailleurs, il y a des morceaux qu'on joue avec le workshop qui pour certains avaient été conçus par Taute et qu'on n'a jamais joué. On a travaillé une ou deux fois et ça prenait pas.
C'était gardé dans les cartons.
C'est pas grave, c'est joué, c'est pas joué. Enfin, c'est qu'un morceau de musique, c'est pas grave. Il y a des choses plus.
Je vous signale que le temps tourne. Je propose qu'on termine l'émission par écouter Taute. Ce sera plus simple. Mais avant, il faudrait aussi parler d'Olympe.
Oui, le trio Olympe, c'est vrai.
L'écouter aussi, peut-être. Non, on ne va pas l'écouter.
C'est le trio Olympe qui avait une actualité discographique il y a peu, d'ailleurs.
Olympe, il faut rappeler Alexandre Grimal et Sylvain Catala, ce qui constitue un trio de saxophonistes avec toi.
Un trio de saxophones qui est... qui est né enfin très simplement comme ça, autour d'un verre un soir, à se dire tiens, ça serait chouette qu'on essaye de faire de la musique. Et justement, quand on parle de matériaux, alors mm-hmm. encore une fois, ça a été assez intéressant. On s'est vu, on a décidé de faire un premier concert à l'époque à l'Olympique Café, et on s'était dit chacun ramène de la musique, donc une matière mm-hmm. écrite à partir de laquelle on improvisera. Libre à chacun que de ramener des choses déjà existantes adaptées au trio ou d'écrire des nouvelles choses spécialement. On a fait ce concert qui était un mélange donc de morceaux des uns et des autres et puis de plages complètement improvisées. Et pour tout dire, c'est pour ça qu'on en est là où on en est aujourd'hui, tout ce qui a été de l'écrit, enfin tout ce qui s'est passé qui était à l'origine écrit n'a pas donné un résultat si passionnant que ça. En fait, et là où on a trouvé matière à dialoguer tous les trois et à tout de suite avoir une conversation qui était mise en jeu, c'était en improvisant librement, sans aucune contrainte, sans rien se dire. Et depuis, c'est ce qui fonctionne. Et on a éventuellement évoqué maintenant, récemment, on en parlait avec Alexandra, et elle me disait « Ah, ça serait chouette maintenant qu'on a passé un cap, on a fait tout un travail, ça pourrait être super maintenant que d'aller vers de l'écrit, à nouveau maintenant, de refaire cette tentative-là, qui peut-être... » fonctionnera ou pas, mais de voir finalement, après cette période où, complètement improvisée, finalement maintenant on s'est découvert un petit peu les uns les autres à travers ce projet-là. Moi par exemple avec Sylvain Catala, je joue avec Sylvain depuis...
Dans Print avec Jean-Paul Morel.
Depuis très longtemps, ça doit faire 17 ou 18 ans je joue avec Sylvain, et à de très 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 rares occasions. Enfin, en tout cas, jamais jusque-là, un concert entier où on improvise librement. Mmh. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai beau connaître Sylvain un petit peu quand même, je dirais pas par cœur, mais on se connaît bien. J'ai découvert une partie de Sylvain que je ne connaissais pas à travers ces concerts-là, dans son interaction, dans comment il se plaçait au sein de l'orchestre. Et puis, il y a eu tout un travail, puisqu'on se connaissait bien tous les deux. Il fallait qu'on sache accueillir Alexandra et qu'on ne fasse pas 2+1.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et que ça devienne vraiment un trio. Pour moi, c'était ça, l'enjeu d'ailleurs. Ouais. Ce qui peut avoir fait que l'écrit ne marchait pas, par exemple. Peut-être qu'on était vraiment dans un fonctionnement tellement à deux avec Sylvain, parce que les musiques écrites ensemble, on a l'habitude.
Oui.
Peu importe, en tout cas. Mais c'est...
Et donc ce trio-là a enregistré récemment, sur le disque, c'est des extraits d'improvisation du coup.
Le disque est un live, en l'occurrence, c'est un concert fait à Montreuil. Mm-hmm. C'est le live brut de décoffrage, justement, pour le coup. Alors c'est vrai que ça nous ramène à la discussion du début de l'émission, le disque, pas le disque, pourquoi est-ce que c'est un moment, est-ce que c'est comme ça? Il se trouve que...
Là c'est aussi cohérent avec le fait que ce soit une musique d'improvisation libre, peut-être.
Ouais, il y avait ça, alors pareil, c'était pas prévu que ce soit un disque ça.
Ouais.
C'est en l'occurrence, on a fait notre concert, et il y avait un duo. Et j'ai un blanc, c'est une honte, un contrebassiste d'origine russe. J'ai honte, si tu nous écoutes, pardonne-moi. qui joue avant et qui nous a dit je donne mon micro, tout ça, si vous voulez, j'enregistre. Oui, très bien, avec plaisir, merci. Ouais. Et il nous envoie les bandes et un super son. Il avait fait une super prise de son, puis on a écouté le concert. C'était drôlement bien. Et on l'a pris aussi on a eu l'envie, parce que on l'avait très très bien vécu, et il s'est avéré qu'à la réécoute, on trouvait ça chouette, que l'acoustique de l'endroit.
C'était où ?
C'était, je cherche pareil, comment ça s'appelle ? Les anciennes usines Pleyel, la guillotine. Voilà, la guillotine. Que cet endroit a une acoustique vraiment particulière, et que cette prise de son-là, dans un studio d'enregistrement, on va dire classique. Normal, ouais. On ne serait pas arrivé à ce son-là. Mmh. Il y a en plus le lieu qui a permis, et on en a joué, je pense, consciemment ou pas, en tout cas, qui a amené un certain type de résultat dans les résonances, dans tout ce qui se passe. Mmh. Et pardon. Voilà, donc finalement, c'est devenu un enregistrement qui est sorti sur Connex, le label de Sylvain.
Et alors, est-ce qu'on va pouvoir l'écouter celui-là, Christophe ?
Tout à fait, oui. Oui, oui.
Alors ça c'est une excellente nouvelle. Écoutons le dernier disque
de Olympe.
Et les premiers d'Olympe.
Radio Libertaire, eh bien, nous venons d'écouter le trio Olympe avec trois saxophones, Sylvain Catala, Alexandra Grimal et notre invité Stéphane Payen.
Eh bien, l'émission s'approche de sa fin. Oui. Merci Stéphane.
Merci à vous.
Et
quelques annonces.
Et voilà, quelques annonces peut-être avant de se quitter.
Voilà. Alors, jusqu'au samedi 27 juin, exposition des peintures et dessins de Anne van der Linden à la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. Au même endroit, ce soir, à 19h30, conférence-débat animée par Erwan du groupe libertaire Louise Michel, Révolution et communauté anarchiste selon Gustav Landauer. Anarchisme et révolution peuvent-ils être dissociés? Gustav Landauer donne une réponse négative. S'il renonce à la révolution, l'anarchisme se perd. Mais il importe alors de restituer cette réponse dans toutes ses nuances, tant elle implique une définition originale de ce qui s'apparente le plus souvent au rêve lointain d'un grand soir, au contour flou et sans cesse repoussé. C'est ce soir à 19h30 au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris, la librairie Publico, bien sûr. Ce soir également à 20h30 au 99 rue du Ruisseau, métro Porte de Clignancourt, il y a Blandine Sell qui fait de la poésie et un duo électroacoustique Laurence Bouquert et Véronique Villemart. 99 rue du Ruisseau à 20h30, participation aux frais 7 euros. Il y a beaucoup de choses ce soir. Également au Souffle Continu à 18h30. Laurent, est-ce que tu es au courant de ça? Au Souffle Continu, deux duos, Benjamin Duboc et Jean-Luc Petit. Uh-huh. Double basse. Et Hugues Vincent et Yasume Morishige au violoncelle.
Les cordes.
Voilà, c'est à 18h30, c'est rue Boyer, le souffle continu.
Rue Gerbier,
mon cher.
Boyer, c'est la maroquinerie. Pardon. Ne mélangez pas tout.
Oui, c'est vrai, oui. Voilà. Rue Gerbier, donc. Je n'ai plus le numéro, d'ailleurs. Je n'ai pas noté. Ce soir également au Château de l'Étang à Bagnolet, soirée dédiée aux musiques minimales américaines autour de Tom Johnson avec Thierry Madio et l'ami Pierre Berthet. Également ce soir au Triton, on peut le signaler, Artobits avec Chris Cutler, John Greaves, Geoff Legg, là c'est les anciens de Enrico, et Yumi Hara, c'est au Triton, 11 bis rue du Coq Français au Lila. Également ce soir, Dynamo de Beaulieu Bleu Festival Collision Collective avec Homeload Chamber Music Society. Tu en sais plus, Laurent?
Bah, j'y serai.
Et voilà, donc
dans le public, pas dans l'orchestre.
Tu pourras nous en parler. Donc. Voilà. Si on te repère dans le public. Et également ce soir aux Instants Chavirés, le duo Jean-François Pauvros et Charles Penquin. Demain 6 juin au Garage, allez, on va dire ça par exemple, Sister Yodine. Dimanche 7 juin à la Guillotine de Montreuil, dont on vient d'entendre un excellent enregistrement. Les Dimanches de l'Impro. Et également Eric Minkinen au 13 dimanche 7 juillet. Toutes ces également. Dimanche, à l'église Saint-Méry, Frédéric Oberlan, Mounkoff, Christine Hoth, Ezam Rahman et Pascal Battus. Toutes ces informations, je le redis encore une fois, vous pouvez les obtenir via votre mail en écrivant un petit message à l'ami Jean-Jacques, jjgfree@gmail.com, et il vous enverra donc ses agendas avec toutes ces informations. Et vous pouvez également participer à lui livrer des informations quand vous êtes au courant. Il n'y a pas seulement de la musique, il y a du cinéma, des expositions, enfin il y a tout. Voilà, on va se quitter avec un dernier morceau, un dernier petit mot peut-être. Stéphane, est-ce que tu as un site internet ou quelque chose comme ça pour opérer tout ce que tu fais?
StéphanePayen.com, je fais super original. Voilà.
C'est parfait, on s'en souviendra.
Bah, ouais.
Merci encore.
Merci à vous, c'est toujours un plaisir.
Bah, merci beaucoup. Alors, on vous laisse avec nos amis de Sortir du colonialisme. Et puis la semaine prochaine, une émission exceptionnelle avec un musicien autrichien, Deep Dryzen. Et bah, je vous encourage à écouter, comme toutes les semaines, nos émissions. Vous pouvez les écouter également en différé sur notre site. Laurent.
LesoreillesLibres.free.fr.
Voilà. Et bah, salut!
Ciao.
Ciao.
On se quitte donc avec Tot, dont on avait écouté quelques mesures par erreur tout à l'heure. Désolé. Allez, salut.
Ciao.